And we had a glorious time these last two or three nights here in the building.
Amen.
And we're thanking our Heavenly Father for it. Souls has been
Nous avons passé un moment merveilleux. Au cours des deux ou trois dernières soirées, nous en sommes reconnaissants à notre Père Céleste. Des âmes sont nées dans le royaume de Dieu et de si bons rapports sur les services de guérison. Nous avons appris que la fille qui a été amenée ici venait d'une autre ville. Elle avait une leucémie et son médecin l'a déclarée en bonne santé aujourd'hui. Elle devait devenir missionnaire. Vous vous souvenez de ce cas? Satan a essayé de la priver de cela. Maintenant, elle est en bonne santé et le prédicateur aveugle a retrouvé la vue et d'autres. C'est l'Esprit de Dieu qui est descendu et le don de discernement a été manifesté par lequel les difficultés des gens ont été révélées. Je demandais aux gens s'ils ont la possibilité de rester pour ici témoigner s'il y a un changement visible chez eux après la prière. Il y a peut-être quelqu'un dans l'assemblée aujourd'hui qui n'a pas eu besoin de rentrer chez lui. Et vous sentez qu'un changement s'est produit en vous. Si vous êtes ici, eh bien, je ne vois pas encore de main. Je ne sais pas si les gens ont pu rester ici. Oui, il y a quelqu'un là-bas. C'est très bien. Tu sens qu'un changement s'est produit. C'est bien. Très bien. Il n'y avait rien de visible à voir. Il n'y avait rien à quoi nous pouvions regarder, mais il y avait une femme dans la pièce. Elle avait un problème de sens. Et le Saint-Esprit lui a parlé et lui a dit ce qui s'est passé dans sa vie. Puis quelque chose d'autre qu'elle supposait être arrivé et qui ne s'était pas passé. Ensuite, il lui a été parlé d'une personne avec une longue barbe et de longs cheveux qui avait prié pour elle. Puis, elle avait perdu ses sens et disait non, et elle est revenue. Mais le Saint-Esprit a même nommé la personne par son nom. Où c'était et quand c'était, puis elle a dit, « Ah oui, maintenant je m'en souviens. » Oh, la perfection du Saint-Esprit. Il est une réalité et nous sommes très pleins. Il y a une réunion avant que je ne vous quitte. Je suis si heureux d'avoir de vieux amis, frère Rogers de Willtown. Et le frère Kate, il était ici hier soir. Et aujourd'hui, dans l'interview, le Saint-Esprit était merveilleux. Combien, peut-être que les choses resteront ainsi. Combien de temps cela va-t-il durer? Un temps jusqu'à ce que l'attente arrive, peut-être sous le même ministère que j'ai reçu. Aujourd'hui, j'ai eu quatre visions parties. Et j'espère que cela restera ainsi jusqu'à ce que l'attente commence ou quoi qu'il ait choisi pour faire connaître son nom d'une manière nouvelle. Ce sera aussi parfait que celui-ci. Et je fais confiance au Seigneur pour qu'elle soit encore plus grande, non pas à cause du ministère, mais à cause des gens qui sont dans le besoin. Il y a une telle détresse parmi eux. Eh bien, je ne veux pas être trop long ce soir, car il y en a tant qui doivent voir, qui doivent se tenir debout. Avant que nous ne lisions maintenant sa parole, parlons lui personnellement. Nous inclinons nos têtes. Dieu fidèle, nous venons maintenant dans ta sainte présence avec des cœurs humbles et des têtes inclinées. Nous te demandons de nous pardonner tout ce que nous avons pu faire, penser ou dire jusqu'à ce jour qui était contraire à ta volonté. Nous te demandons de nous pardonner dans ta grâce à chacun d'entre nous. Nous nous sommes réunis ce soir sans autre raison que de t'offrir et d'exprimer notre gratitude et notre reconnaissance envers toi. Nous sommes certains que cette petite assemblée, cette congrégation ici, les personnes qui ont afflué ici, ils ne sont pas venus pour se faire voir. Ils ne sont pas venus pour une autre raison, pour une autre raison que d'exprimer leur amour envers toi. Ils ne resteraient pas dehors, debout dans le bâtiment, alors qu'ils ont mal aux hanches, juste pour être vus. Non, ils croient que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Nous te demandons le pardon pour tous les péchés des hommes. Que ta puissance puisse venir sur les malades et les nécessiteux. Nous te prions. Bénis ta parole lorsque nous la lisons. Nous ne sommes pas en mesure d'apporter ta parole. Puisse le Seigneur venir et entrer dans la parole et la planter dans le cœur des gens. Que cela produise une grande récolte d'âme et un grand service de guérison. Nous demandons humblement tout cela au nom de Jésus. Amen. Comme lecture de l'Écriture ce soir, je souhaite lire un passage dans 2 Rois. En commençant par le 8e verset, mon texte de ce soir est « En regardant l'invisible ». Le premier soir, j'ai parlé du thème. L'élever au-dessus de l'histoire et hors de l'histoire. Le deuxième soir, j'ai parlé du thème. Il n'en était pas ainsi dès le début. Aujourd'hui, dès le commencement. Aujourd'hui, c'est mon texte « Levant les yeux vers l'invisible ». Levant les yeux vers l'invisible. Nous lisons dans les 2 Rois au chapitre 6, à partir du 8e verset. Un jour que le roi de Syrie était en guerre contre Israël, il prit un rendez-vous avec les chefs de son armée. C'est à tel et tel endroit que sera mon camp. L'homme de Dieu envoya dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer par ce lieu, car les Syriens, ils sont en embuscade. » Alors, le roi d'Israël envoya au lieu que l'homme de Dieu lui avait indiqué et contre lequel il l'avait mis en garde. Et il y prit garde. Et cela arriva plus d'une fois ou deux. Le roi de Syrie s'émut de cet événement, si bien qu'il convoqua ses chefs d'armée et leur dit, « Ne pourriez-vous pas m'indiquer qui parmi les nôtres est allié au roi d'Israël ?» Alors l'un des chefs de son armée répondit, « Non, mon seigneur, le roi, mais c'est Élisée, le prophète en Israël, qui communique au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Alors il dit, « Allez savoir où il se trouve, j'en verrai l'arrêter. » Quand on vint alors lui dire, « Voici, il est à Dothan », il envoya des cavaliers, des chars et une forte armée qui y arrivèrent de nuit et encerclèrent la ville. Le matin, lorsque le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bonne heure et sortit de la maison, il y avait une armée autour de la ville avec des chevaux et des chars, si bien que son jeune homme lui cria, « Malheur, Seigneur, que ferons-nous ? » Mais il lui répondit, « N'aie pas peur, car notre armée est plus forte que la leur. » Sur quoi Élisée pria en disant, « Éternel, ouvre ses yeux, qu'il voit. » L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui regarda et vit que la montagne tout autour d'Élisée était pleine de chevaux et de chars de feu. Puisse le Seigneur bénir la lecture de sa parole. Il y a quelque chose de déconcertant, d'étrange dans le fait que des hommes qui ont été faits à l'image de Dieu et appelés à marcher par la foi, dans la foi, en ce Dieu qui existe. C'est étrange de voir qu'ils ont choisi de marcher d'après ce qu'ils voient sans croire. Or, l'homme a été fait et tout a été créé et tout ce qui est en lui a été créé à l'image de Dieu. Et Dieu est le grand Jéhovah qui nomme déjà les choses qui ne sont pas encore comme si elles étaient là. Les hommes sont faits pour vivre avec Dieu de cette manière. C'est-à-dire par la foi. Et pourtant, ils ont choisi de marcher selon ce qu'ils voient. Ils veulent être leur propre chef. Ils ne veulent pas que quelqu'un leur dise ce qu'ils doivent faire. Ça, c'est la nature de l'homme. Cette preuve est déjà présente dans le Jardin d'Éden. Lorsque ils ont perdu leur communion avec Dieu et ont choisi de suivre leur propre voie, personne ne devait les dominer. Mais l'homme est fait comme un mouton. Un mouton ne peut pas retrouver son chemin tout seul. On m'a dit que lorsqu'une brebis est perdue, elle est complètement perdue. Il en va de même pour l'homme. Lorsqu'il est perdu, il est absolument sans défense. Il a besoin d'un berger pour le guider. Lorsque les hommes choisissent quelqu'un pour être leur conducteur, comme c'est le cas ces jours-ci, les choses vont de mal en pire pour eux, car ils choisissent d'aller en fonction de ce qu'ils voient et non de marcher par la foi. Or, en faisant cela, ils privent l'homme intérieur de son âme, qui est la partie éternelle de l'homme. Car les hommes ne doivent pas vivre de pain seulement, c'est ce que dit le Seigneur, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, si l'on se préoccupe de l'existence physique de l'homme, ce n'est pas là le seul but de l'homme. L'extérieur est peu de choses par rapport à la valeur de l'intérieur. C'est l'intérieur qui compte, car l'intérieur vient de Dieu, du ciel, la partie éternelle de l'homme. Mais pourtant, comme il est déconcertant et étrange que l'homme essaie toujours de trouver sa propre voie, nous le trouvons dans l'Écriture que si les hommes choisissent de marcher à leur propre manière, Dieu les laisse aller. Dieu les laisse le faire. Les hommes ne doivent pas penser pour eux-mêmes, mais les pensées de Jésus-Christ doivent être en eux. Nous ne devons pas penser de nous-mêmes, mais nous devons considérer tout ce qui est contraire à ce qui est écrit, à ce qu'il a dit dans sa parole, comme si cela n'existait pas. Peu importe ce que notre œil peut voir, nous ne vivons pas selon ce que nous voyons, mais selon ce que nous croyons. Quelques jours plus tôt, j'écoutais un programme à la radio alors que je me rendais à l'école du dimanche. Il s'agissait d'une discussion menée par des jeunes et je me suis alors demandé qu'est-ce que ça peut faire. Il leur semblait que le plus important était de savoir si le garçon, c'est-à-dire le petit ami d'une fille, devait avoir des cheveux ondulés, etc. Ils parlaient du partenaire. C'était leur grand problème. Mais ce n'est pas le plus grand problème. Le plus grand problème est de trouver votre Dieu et votre Créateur. Vous ne devriez jamais faire de mariage mixte, mais marier quelqu'un qui croit exactement ce que vous croyez, car Dieu est la chose la plus importante pour laquelle nous sommes sur terre, pour le servir. Et si vous vous mariez et faites quelque chose qui va à l'encontre de sa volonté, et si ce n'est pas son choix, vous en payerez le prix. C'est dans les jours qui sont devant vous. Vous devez marcher dans par la foi et non par ce que vous voyez, car le juge vivra par la foi. Nous regardons l'invisible. Nous pourrions parler pendant des heures de cette époque moderne, de la manière dont les hommes et les femmes regardent ce qui est visible. Ils choisissent, par exemple, une église dans laquelle ils vont eux-mêmes et où ils amènent leurs enfants. Ils ne cherchent pas l'église qui est la plus spirituelle, mais la plus grande qu'ils trouvent, celle qui a la plus grande foule et les mieux vêtus et les notables de la ville qui y vont. On l'appelle la meilleure classe, pour autant que les gens en jugent. Et dans cette assemblée, ils auront un prédicateur dont ils diront, il n'est pas étroit d'esprit. Il laisse les gens vivre comme ils l'entendent tant qu'ils viennent au service divin. Mais l'esprit de l'homme, au plus profond de lui-même, si vous lui donnez la préférence, il vous conduira dans une mission simple où il n'y a pas beaucoup de monde, mais où il y a l'esprit du Dieu vivant. Car l'homme extérieur, il s'oriente vers la psychologie, vers l'intellectuel. Mais l'homme intérieur, il cherche la parole de Dieu. Si nous considérons maintenant beaucoup de ces caractères dans notre Bible, prenons-en quelques-uns. Je pense au chapitre 11 des Hébreux. Nous y lisons qu'Abraham, lui aussi, n'était qu'un homme, et il habitait dans la ville d'Ur en Chaldée. Il n'était qu'un homme ordinaire comme les autres. Mais un jour, il est entré en contact avec Dieu, et Abraham a été transformé à partir de ce jour-là. Il n'y avait pas de différence avec la façon dont il avait assisté au service divin auparavant. Mais après sa rencontre avec Dieu, il était devenu un homme nouveau, un autre homme. Je crois que cela n'a pas encore cessé. Vous pouvez être des membres fidèles de l'Église et marcher droit devant votre voisin. Mais lorsque vous rencontrez Dieu, vous êtes des personnes transformées, changées. Il y a longtemps, je m'en souviens encore, j'ai parlé à une personne intellectuelle et on m'a dit, est-ce qu'une religion peut offrir plus que l'autre? Et j'ai répondu, j'ai rencontré le Dieu vivant. J'ai lu concernant sa bonté, sa patience, sa puissance. Et j'y crois dans la mesure où où seul quelqu'un peut y croire. Mais un jour, j'ai rencontré celui dont j'avais lu le nom et ce fut un changement soudain dans ma vie. C'est, je l'espère, ce qui se passe avec chacun, avec chacun. Quelque chose se passe quand nous cessons de nous baser sur ce qui est visible et que nous vivons par la foi et que nous expérimentons dans la foi ce qui est écrit, ce que nous lisons dans la Bible. C'est de ça qu'il s'agit. Nous voyons qu'Abraham n'était plus un jeune homme. Il était déjà un vieil homme, âgé de 75 ans, 75 ans, ainsi que sa femme, Sarah, qui était sa demi-sœur. Ils étaient mariés depuis de très nombreuses années. On dit qu'elle avait environ 17 ans lorsqu'elle s'est mariée. Dieu dit à Abraham, « Je t'ai choisi, toi et Sarah, pour que vous ayez un enfant. » Or, Sarah avait été stérile toute sa vie. Mais Abraham ne regarda pas à ce que ses yeux allaient voir, c'est-à-dire à une vieille femme avec des rides. Mais il regarda l'invisible et vit Isaac. Par la foi, il vit Isaac. Et après avoir regardé l'invisible, il a nommé les choses qui n'étaient pas encore comme si elles étaient déjà là. Il avait le regard sur l'invisible. Par la foi, il le voyait déjà. Et la Bible dit qu'il regardait celui qui est invisible comme s'il voyait celui qui était avec lui sur le chemin. Si jamais un homme obtient ce regard vers le Dieu invisible et sait qu'il est toujours présent, alors la pensée de cet homme tiendra ferme ses actions et dans tout et dans le temps des épreuves et des difficultés, il sera ferme en dehors des choses qui peuvent se produire autour de lui. Il regarde l'invisible à travers la promesse. Eh bien, Abraham n'a pas seulement regardé l'invisible. Et la raison pour laquelle il a cru, c'est parce que Dieu l'a dit. Si nous sommes alors morts en Christ, nous sommes alors la semence d'Abraham. Et si l'esprit qui habitait en Christ habite en nous, alors il fera la même chose en nous. Il produira la même chose en nous. Toute promesse divine, il la prendra dans cette Bible, la rendra présente et se reposera sur elle. La rendra présente et vivante pour nous et se reposera sur elle. Mais si vous voyez de vos yeux, cela n'arrivera pas. Vous voyez? Comme les nations tremblent, les nuages de la guerre menacent partout et la perplexité est parmi les hommes. Tous les signes dont Jésus a parlé se produisent. Il y aura des signes dans le ciel et sur la terre. Et de grandes choses se produiront, comme maintenant les soucoupes volantes et les choses mystérieuses. Mais il a ordonné à son Église de lever la tête, car le Christ invisible va bientôt apparaître. Si nous ne nous basions que sur ce que nous voyons, nous serions des enfants des ténèbres. Je suis si heureux qu'il y ait une lumière qui brille dans le cœur de chaque croyant jusqu'au jour de l'aurore. Jusqu'au jour qui apparaîtra. Maintenant, reconnaissez qu'il y a une leçon pour nous tous. Qu'a fait Abraham? Parce qu'il ne s'est pas contenté de croire. Il a aussi fait des préparatifs pour l'enfant qu'il avait déjà vu avec foi 25 ans avant la naissance de l'enfant, car il a pris en compte le fait que celui qui lui avait fait la promesse était fidèle à l'accomplir. Il est alors devenu centenaire. Il ne s'est pas considéré, il ne s'est pas considéré lui-même, ni la mort du corps de Sarah. Et l'auteur de ce récit divin dit qu'il ne s'est pas laissé égarer par l'incrédulité, mais que par la foi, il a remercié Dieu et est devenu de plus en plus fort dans la foi. Quelle leçon ! Aujourd'hui, il n'y a aucun besoin d'essayer d'atteindre ces choses avec une foi intellectuelle. Avec une foi intellectuelle, vous ne pourrez jamais le faire. Vous pouvez aller d'église en église et de rangée de prière en rangée de prière sans jamais en faire l'expérience personnellement. Vous devez arriver à l'endroit où c'est éternellement terminé une fois pour toutes avec vous et entre vous et Dieu. Soit il est Dieu, soit il ne l'est pas. Je suis tellement désolé pour les gens. Comme je l'ai dit hier soir, Jésus a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Et le cep qui a produit la première branche, cela s'est passé à la Pentecôte. Et la bénédiction de la Pentecôte est rapportée dans les Actes des apôtres. Et si la première branche était la Pentecôte, alors une deuxième branche doit être, une autre branche du sceptre doit être la Pentecôte. Et elle sera le même type de fruit. Et l'église est d'église et d'église que la première branche l'était. Jésus n'a-t-il pas dit dans l'évangile de Jean, tout sarment qui ne porte pas de fruits est coupé de ça et se dessèche. Vous voyez, c'est ce qui arrive à nos dénominations aujourd'hui. Elles seront coupées du cep. Seuls ceux qui portent du fruit, ceux qui portent le fruit du Saint-Esprit, afin que les œuvres du Saint-Esprit puissent s'accomplir continuellement. Car la vie du cep est dans les sarments. Et la vie qui était en Jésus lui-même était dans la première église. Il ne marchait pas d'après ce qu'il voyait, mais par la foi. Oh, quelle différence y a-t-il entre les gens qui marchent par la foi et les choses qu'ils regardent et qui sont en contradiction avec la parole, les choses visibles qu'ils voient, comme si ils les considèrent comme si elles n'étaient pas. C'est de cette foi que nous avons besoin dans l'Église. Nous rejetons tout ce qui est contraire aux Écritures. Voyez Moïse, lorsqu'il a atteint l'âge de 40 ans, au début, c'était un jeune homme, pour autant que le visible était concerné. Moïse avait le monde entre ses mains. Il aurait pu être le prochain pharaon d'Égypte. La terre du monde était à sa disposition, entre ses mains, pour être roi du monde d'alors. Et pourtant, il regardait par la même fenêtre que Pharaon. Il a vu les Hébreux. Pour Pharaon, qui les regardait, il n'était rien d'autre qu'un tas de fabricants de briques. Et quand les notables passaient, ils regardaient de haut, avec mépris, ces esclaves qui creusaient là, dans la boue. Mais pour Moïse, le tableau était différent, car il regardait l'invisible. Il se souvint de la promesse que Dieu avait faite de les libérer et de les faire entrer dans le pays. Il regarda l'invisible. Il vit les années qui l'attendaient. Il vit l'Égypte détruite. Et pourtant, il l'attendait. Et nous le voyons encore aujourd'hui. Il voyait déjà Israël en sécurité, comme Abraham et tous ceux qui sont dans la gloire. Moïse a choisi de prendre le chemin le plus difficile et de ne pas accepter le meilleur que le monde lui proposait. Il a considéré l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que tous les trésors d'Égypte, car il a regardé l'invisible comme s'il le voyait. Dieu a parlé à Moïse et Moïse savait qui était Dieu. Moïse le regarda. Maintenant, Moïse regardait à Dieu. Maintenant, laissez-moi vous dire ce soir, Moïse avait dans une main ce que le monde pouvait lui offrir de mieux. Il n'aurait rien pu lui offrir de mieux que ce que le monde avait. Mais, d'un autre côté, on lui a donné ce qu'il y a de plus difficile et de plus bas. Maintenant, s'il avait réfléchi humainement, quel côté aurait-il pris? Permettez-moi de vous dire ceci avec sincérité et sans vouloir de mal à personne. Juste pour que vous compreniez, ne regardez pas aujourd'hui les grandes églises et les grandes dénominations, celles qui sont bien habillées. Regardez Christ qui était riche et s'est fait pauvre afin que nous puissions nous enrichir par sa pauvreté. Et si vous cherchez une église, n'allez pas là où se trouvent les notables ou ceux qui ont leur distinction de, les distinctions de docteur, mais regardez et trouvez les gens que l'on voit avec mépris. Moïse avait ce que le monde pouvait lui offrir de meilleur. Et c'est là qu'il a vu ce qui extérieurement était le pire. Mais il marcha dans la foi et regarda l'invisible. Il a regardé vers Dieu et a considéré l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors d'Égypte. Là-bas, le trône était la couronne. Et la couronne, tout était pour lui. Il aurait pu saisir ces choses, mais par la foi, il a regardé à Christ et a marché sur le chemin de l'opprobre avec le peuple de Dieu. Or, Moïse ne s'est pas contenté de s'asseoir et de dire « Je sympathise avec ce peuple ». Et peut-être que vous aussi, vous dites « Nous ne voulons pas dire un mot contre eux ». Parfois, quand ils entendent un message strict de Dieu, ils disent « Oh, je n'ai rien contre ceux qui croient à la guérison divine et au miracle. » Mais cela ne suffit pas. Moïse n'a pas seulement eu de la sympathie et est monté sur le trône. Non, Moïse est allé vers eux et est devenu l'un d'eux. Je me souviens quelques années en arrière quand on m'a fait cette grande proposition avec les baptistes et les presbytériens. Ici, une femme de cette ville voulait prendre l'obligation financière sur elle. Mais quand j'ai vu que le groupe qui croit au surnaturel était rayé, ridiculisé et traité de saint roulard, comment pouvais-je rester un prédicateur baptiste? Je ne me suis pas contenté de dire que je n'avais rien contre eux. Non, j'ai choisi d'être l'un de ceux qu'on appelle les saints rouleurs. Les saints rouleurs. Car je vois au milieu d'eux se produire les signes du Dieu vivant. Dieu est au milieu d'eux. Et je crois que c'est de leur milieu que sortiront ceux qui participeront à l'enlèvement. Que le monde dise ce qu'il veut. Ne vous contentez pas de sympathiser, mais devenez l'un d'eux en marchant par la foi, en regardant l'invisible. Je vois l'Église déjà prise dans l'enlèvement. Je vois Jésus revenir pour prendre son Église. Mais ceux qui sont enlevés sont alors avec le Seigneur. C'est pourquoi cela vaut la peine d'aller avec ce groupe plutôt qu'avec tous les notables du monde entier. Moïse l'a choisi parce que par la foi, il voyait déjà ce qu'ils étaient. En effet, 400 ans s'étaient presque écoulés et la promesse avait été faite qu'ils seraient délivrés. La raison pour laquelle je suis aujourd'hui sur le champ de mission dans ce mouvement, c'est que je crois, car il y a environ 10 ans, lorsque l'ange de l'Éternel m'a rencontré, qui me parlait depuis mon enfance, que je devais partir. Et il m'a dit que je devais partir avec ce message. Parfois, je ne crois pas en ce qu'ils font, mais je crois qu'il y a l'Église du Dieu vivant parmi eux. Eh bien, Il vaut mieux partir avec quelques personnes qui croient en Dieu qu'avec des millions qui sont bien habillés et qui le renient. Leurs œuvres le prouveront. Moïse regardait l'invisible comme s'il le voyait. Et à la fin du voyage de sa vie, oh, j'aime dire ceci, car quelqu'un a dit un jour, frère Branham, Dieu a été injuste en laissant Moïse avec le peuple pendant 40 ans et en ne le laissant pas entrer dans la terre promise ensuite. Mais le fait est que Moïse était 800 ans plus tard avec Élie sur le mont Carmel dans la terre promise. À la fin de son voyage, il se tenait là sur la montagne et faisait signe d'adieu. Il regardait de l'autre côté du Jourdain. Il avait 120 ans quand son dernier souffle l'a atteint. Le rocher frappé était présent et les anges l'ont emporté. Et le monde ne connaît son tombeau jusqu'à aujourd'hui, car il ne connaît pas son tombeau jusqu'à aujourd'hui, car il regardait l'invisible comme s'il le voyait. Aussi à l'heure de sa mort, il aurait pu devenir pharaon par l'autre voie, mais il était sûr de prendre la bonne décision. Vous aussi, vous devez en être sûr. Josué, 40 ans plus tard, après leur passage dans la terre promise, c'était un homme militaire. À l'approche de son premier combat, il se trouva à un endroit où il n'aurait jamais pu remporter la victoire de lui-même. Il regarda l'invisible, car Dieu avait promis à Moïse de leur donner Israël. Et par la foi, il vit les murs de Jéricho déjà posés à plat sur le sol. Et il marcha autour et autour de la ville selon la parole. Et lorsque les trompettes sonnèrent et que le peuple poussa des cris de joie, les murailles de Jéricho tombèrent. Il vit l'invisible. Il marcha. Et puis, il vit un homme qui avait tiré l'épée, qui vint à sa rencontre, et il lui demanda, « Es-tu pour nous ou contre nous ?» Et l'homme répondit, « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » Josué sut alors que la victoire dans la bataille était décidée déjà pour lui. Vous, les hommes qui êtes ici ce soir, pécheur dans votre cœur, je ne veux pas dire que vous vivez dans l'adultère ou que vous vous enivrez. Non, le péché est l'incrédulité. L'incrédulité est dans votre cœur, est dans vos cœurs. Ouvrez vos cœurs, fermez vos yeux et regardez le guide qui est parmi nous ce soir. Et que vous soyez libérés de tout lien de péché. Alors, les jours de doute seront passés. Oh, loué soit le nom du Seigneur. On m'a dit que si un serpent atteint l'œil d'un oiseau et le fixe, l'oiseau sera atteint par le serpent. Même si l'oiseau bouge ses ailes, il sera alors paralysé et le serpent attrapera l'oiseau. Je peux le croire, car je sais par un autre serpent, par le diable, que s'il peut atteindre l'œil par toutes ses tromperies avec votre rock and roll moderne et toutes ces choses du monde qui nous sont présentées, s'il peut vous attraper, jeune femme, jeune homme, s'il vous regarde, vous le verrez papillonner autour de vous, n'est-ce pas? Mais il vous aura et vous dévorera. Puis on m'a dit, la seule façon pour cet oiseau d'avoir une chance de s'en aller est de détourner ses yeux du serpent. c'est de détourner ses yeux du serpent. S'il détourne ses yeux du serpent et lève les yeux, puis bouge ses ailes, il sortira alors de la zone du serpent, de séduction du serpent. Et si vous êtes encore retenu par les choses de ce monde, alors moi, je vous dis qui est celui qui vous dit d'être moderne et les autres choses, et de suivre ces autres choses. Détournez-vous et regardez le Seigneur Jésus et bougez vos ailes de foi jusqu'à ce que vous soyez hors du domaine du serpent. Alors le Seigneur vous parlera. Si quelqu'un vous dit la guérison divine est fausse, n'est pas vrai, détournez votre regard de lui. Si quelqu'un vous dit le discernement spirituel est de la télépathie, détournez-vous et regardez l'invisible, comme Élisée a dit à son serviteur Géasi quand il a vu l'armée syrienne et qu'on a vu que cet homme de Dieu était capable de dire au roi d'Israël ce que le roi de Syrie pensait dans sa chambre à coucher. Permettez-moi de dire ceci ce soir. Le même Dieu vit encore aujourd'hui et il est le même aujourd'hui. Il peut toujours connaître vos pensées et ce qui vous touche même aujourd'hui. Vous devriez alors observer les fruits de l'Esprit et voir si c'est Dieu qui se révèle à nouveau dans notre génération. Et quand les grandes guerres et que les difficultés arrivent, comme toujours, comme Géasi, il peut être comparé à un simple membre de l'Église. Il n'a pas vu ce qu'Élisée a vu, car il ne marchait pas encore dans la foi. Élisée regardait toujours l'invisible, car Élisée connaissait la parole du psaume, les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent. Mais Géasi n'avait peut-être cru qu'à moitié. Il était qu'un membre d'église. Mais Élisée a dit, « Oh Seigneur, Dieu ouvre les yeux à cet homme pour qu'il voie que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. » Et quand Dieu ouvrit les yeux, il vit des chevaux et des chars de feu. Ils étaient tous autour du prophète. Ils étaient toujours là. Il ne les avait simplement pas vus auparavant. Et ce soir, je dis la même chose. Le Dieu qui se tenait là, qui se révèle dans les actes des apôtres, le même qui se manifestait autrefois, le même Jésus a dit, « Je suis avec vous tous les jours de votre vie. Je ne vous abandonnerai jamais. Je ne manquerai jamais de prendre soin de vous. Et les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Je serai avec vous et en vous jusqu'à la fin du monde. » On m'a parlé d'un pilote qui pilotait un avion à réaction très rapide. On m'a dit que lorsque l'avion atteint une certaine vitesse, il vibre et on dirait que les ailes se brise jusqu'à ce que cette vitesse du son franchisse le mur du son. Une fois que cela se produit, l'avion s'envole tout doucement lorsqu'il a franchi son propre mur du son. Il ne vibre plus. Voilà la difficulté pour l'avion. Mais une fois ce mur franchi, il s'envole en douceur. Oh, si l'Église pouvait prier en ce moment, dans ce temps, jusqu'à ce qu'elle puisse franchir la barrière du péché, la barrière de l'incrédulité, et franchir ce mur du son, puis s'envoler dans la présence même du Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant. Est présent, est là. Si nous laissons notre incrédulité derrière nous, si nous brisons notre incrédulité en lui et brisons ce mur, si les gens disent le temps des miracles est terminé, cela vous ébranle. Quand on vous dit qu'il n'y a plus le baptême de cet esprit, alors cela vous plonge dans l'étonnement. Mais si vous regardez à l'invisible, car il est écrit, c'est à vous que cette promesse est. Et à vous et à vos enfants. et à tous ceux que le Seigneur en appellera en aussi grand nombre. Si vous regardez dans la parole bénie, Jésus-Christ, le même, hier, aujourd'hui et éternellement, regardez-le et prenez votre vent en vol jusqu'à ce que vous ayez franchi ce mur du son, le mur de l'incrédulité, le mur du péché et tous les murs du doute, et que vous puissiez alors voler librement dans la présence de Dieu, sachant que toutes choses sont possibles. Il n'y a alors plus de vitesse fixée pour l'avion. Vous pouvez voler selon votre bon plaisir. Que nous arrivera-t-il lorsque nous aurons franchi le mur du son? L'Écriture dit, Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Lorsque Jésus était sur terre, il a dit, « Je ne fais que ce que le Père me montre. » Puis, il s'adressa, par exemple, à la femme, puis près du puits, et une autre fois à un homme. Et il lui dit, « Ton nom est Siméon, et le nom de ton père est Jonas. » Comment le savait-il? Comment cet homme de Galilée a-t-il su que le nom de cet homme était Siméon et que celui de son père était Jonas, car il était rempli de la puissance qui regardait à l'invisible et non à ce qu'il voyait. Non, il regardait au Dieu des cieux. Puis on lui a amené un autre homme et il lui aura raconté en chemin ce que Jésus avait dit. Nathanaël aurait certainement été sceptique, mais arrivé auprès de Jésus, il lui a dit, un vrai Israélite en qui il n'y a pas de faux. Comment le savait-il? Personne ne lui avait dit qu'il était un Israélien. Il ne l'avait pourtant lu dans aucun livre, mais il a regardé l'invisible qui connaît la fin avant le commencement. Et Nathanaël dit, « Rabbi, comment me connais-tu ?» Il répondit, « Avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu sous l'arbre. » Il regarda l'homme, il regarda à l'invisible, la femme au puits, il lui dit, « Donne-moi à boire. » Puis il lui dit, « Si tu savais qui est celui qui te parlait, tu lui demanderais. » Tu lui demanderais à boire. Elle ne savait pas qui lui parlait. Elle ne voyait en lui qu'un juif et dit, nous ne sommes pas en communion ensemble. Vous et nous, la conversation se poursuivit jusqu'à ce que Jésus lui révèle par l'esprit et lui dise, va. Où est ton mari? Et elle dit, je n'ai pas de mari. Et il dit, c'est vrai, tu as eu 5 maris. Celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Et elle dit, nous savons que lorsque le Messie viendra, il nous dira tout sur nous. Il nous dira tout. Mais qui es-tu? Il répondit, c'est moi qui te parle, je le suis. Et elle courut à la ville et dit, venez, voyez un homme. N'est-ce pas le Messie? Voici le ministère que Jésus exerçait dans le monde connu de l'époque. Et il dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi. Écoutez ce qu'il dit avant de partir. Voici, je suis avec vous pour un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Les intellectuels, etc. C'est une prophétie. Et c'est la vérité. Jésus-Christ a dit, ceux qui ne croient pas, ceux qui croient que par l'intelligence ne le voient pas, mais vous me verrez, car je serai avec vous et en vous jusqu'à la fin du monde. Et les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi, et même de plus grandes, car je vais au Père. Ce grand Dieu et Père dont nous parlons, n'est pas seulement quelque chose qui a été, non, il est. Et les personnes qui sont appelées par son nom, lorsqu'elles brisent ces barrières, ce que disent les communautés, les églises, ce que disent les credos et les sciences, et écoutez ce que dit Dieu. À la minute où vous franchissez la barrière de l'incrédulité et du doute, vous quitterez ce soir ce bâtiment en bonne santé. Car le même Dieu fera tout bien. Dieu ne serait pas un Dieu de justice qui récompenserait les uns à cause de leur foi et pas les autres ayant la même foi. Non, il ne peut pas le faire. Si Dieu a retiré la leucémie de cette fille et la guéri sur le champ, le même Dieu doit le faire à nouveau pour tous les autres qui croient. En une seule heure, après que la prière ait été faite, l'enfant a été déclaré guéri par le médecin. Je pense au congrès Manapshah qui était assis dans sur une chaise roulante depuis 66 ans, qui était avec Mr. Runselvers. Et quand il a été amené à la prière, Dieu a donné une vision. Et Dieu l'a libéré, l'a guéri sur le champ. Maintenant, si une autre personne dans la même situation vient à lui, vient à Dieu, cela doit se reproduire. Sinon, Dieu serait injuste. Dieu est juste, mes amis, cela dépend de nous. Si seulement nous pouvons briser cette barrière de l'incrédulité et que nous ne faisons plus attention à qui le dit, mais que nous savons que c'est Dieu qui l'a dit, alors allez de l'avant. J'ai souvent réfléchi à ce poète dont j'ai entendu parler dès mes années d'école, comme dès mes années scolaires, comme il est dit dans ce texte, dans le poète. Allez plus loin, allez plus loin, allez de l'avant. Il était dit que lorsque Christophe Colomb est parti en exploration, les gens ne croyaient pas à l'époque que le monde pouvait être rond. C'était un homme qui avait le regard et il croyait qu'il allait réussir. Et le bateau qui lui a été donné avec des prisonniers, c'est comme des paroissiens en comparaison, des membres seulement qui sont membres d'église. Ces gens ont essayé de le décourager et lui ont dit, « Qu'est-ce que tu veux de toute façon? C'est impossible. Tu vas finir au fond de la mer avec ton bateau. » Mais il continua à naviguer, n'écoutant pas toutes ces objections. Continue à naviguer, continue à naviguer. Dieu donne-nous des hommes dans l'église qui sont comme ça, qui ne donnent plus rien à ce que le monde scientifique ou les dénominations disent. Dieu l'a dit dans sa parole, continuez à naviguer jusqu'à ce que vous ayez brisé les barrières de tout ce que les hommes disent. Oh, Église, ici, nous chantons souvent ce cantique. J'ai franchi la ligne de séparation. Et s'il y a jamais eu un moment, un temps où l'Église doit franchir cette ligne pour entrer dans la foi, ne pas marcher par l'incrédulité, selon ce que nous voyons, mais par la foi, selon ce que nous ne voyons pas. Déposez tous vos soucis, tout ce qui vous occupe, vous pouvez dire, et tout ce qui vous anime, vous pouvez dire, j'ai trop fumé, j'ai trop longtemps bu, j'ai trop vécu dans l'adultère, je suis un pécheur, que vos péchés deviennent rouges de sang quand vous aurez franchi cette barrière. Et si Satan dit que vous ne pouvez pas le faire, vous pouvez le faire, car celui qui veut qu'il vienne, car l'arbre est là, l'eau de la vie coule. Si vous, les gens, vous êtes malades, vous pouvez passer par des séries de prières et des lignées de prières. Et vous pouvez aussi avoir été chez les meilleurs médecins. Et pourtant, vous avez encore de l'incrédulité, malgré tout cela. Vous devez atteindre l'endroit où vous dites, « Je n'en ai plus rien à faire de ce que disent les médecins ou le monde scientifique. Jésus-Christ a fait la promesse de briser cette barrière de vie. » A fait la promesse. Alors brisez cette barrière de vibration qui est dans votre âme et naviguez vers votre guérison. Aussi sûr que je me tiens ici, cela se produira. Il ne vous renverra jamais en arrière. Il ne vous fera jamais repartir sans vous accorder ce dont vous avez besoin. Non, vous serez alors libre des choses. Comme on dit, il n'y a pas de miracle, pas de signe. C'est ce que les gens disent. Non, continuez à naviguer, mes frères. C'est Jésus qui vous appelle. Là où tout est possible, laissez-vous détacher de tout et briser toute vibration. Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a placé pour vous, a établi pour vous dans son Église d'abord des apôtres, puis des prophètes, puis des enseignants, des évangélistes et des bergers pour confirmer sa parole et prouver qu'il enseigne son peuple. Vous n'avez pas besoin de distinction de titre ou alors de diplôme. Non, Jésus à 12 ans en savait plus sur les Écritures que tous les érudits de l'époque. Voyez, il n'y a pas besoin d'une foi intellectuelle, mais de celle qui est dans le cœur de celui qui opère. Par celui qui opère la foi. Jésus a dit, les œuvres que j'ai faites, vous les ferez aussi, car je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Qu'ils viennent au milieu de nous ce soir. Ne demandez pas comment cela doit se faire, mais regardez le Dieu qui a promis, comme l'a fait la femme au puits, les mêmes signes qu'il a fait autrefois, il les fait maintenant. Aujourd'hui, et il les montre à nouveau au temps des nations, dans le temps des nations. Eh bien, à l'époque, c'était le signe du Messie. Mais les croyants rationnels ne le saisissaient pas. Mais les autres l'ont saisi. C'est le même signe maintenant qui se produit. Et s'il vient ce soir parmi nous et se manifeste vivant au milieu de nous, alors tout pécheur devrait venir à lui et toute personne malade devrait se lever et être guérie. Brisez donc toute ligne qui vous retient de l'incrédulité et de doute et du doute. Tout est possible. Prions maintenant. Éternel Dieu, miséricordieux, qui était Dieu avant qu'un atome ne soit dans l'air, et qui sera Dieu quand il n'y aura plus d'atomes, toi qui as façonné le monde de ta main, et qui l'as appelé à l'existence. Tu as dit que la lumière soit, et la lumière fut. Ta parole ne peut pas échouer. Elle ne peut pas échouer ce soir. Tu as fait la promesse, ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Cette parole est vraie. Seigneur Dieu, nous croyons que la guérison est quelque chose qui a été déjà accompli et donné à Golgotha et acheté comme le salut. Si seulement nous pouvions briser la barrière de l'incrédulité, Dieu Tout-Puissant accorde ce soir aux gens de croire et d'être sauvés de leurs péchés et guéris de leurs maladies. Je demande tout cela au nom de Jésus. Alors que nous gardons la tête baissée, je me demande combien de personnes ici et dehors veulent faire cette confession à Dieu et dire, Seigneur, j'ai été longtemps membre d'église, peut-être que vous ne l'étiez pas non plus, mais il y a encore tellement de choses du monde en vous, vous êtes toujours si vite irrité et vous ne pouvez pas venir à l'endroit où vous voudriez bien aller. Vous ne pouvez pas venir là où vous voulez aller. Ne voulez-vous pas prier ce soir? Seigneur, permets-moi de briser la barrière du péché et de l'incrédulité. Que Dieu vous bénisse tous. Oh, beaucoup de mains sont levées. Seigneur, tu vois les mains. Et puisse le Saint-Esprit qui leur a dit de lever les mains, qu'ils viennent et les libérer de toutes les vibrations du monde, de cette situation paralysée dans laquelle ils sont, que le serpent a exercé sur eux, qui les a pris en embuscade, que le serpent ne puisse plus vouloir les guetter, que vous sortiez de son domaine. Seigneur, sauve-les. Nous voulons te remercier pour cela au nom de Jésus. Et maintenant, avant d'aller plus loin, laissez-moi vous demander combien de malades sont ici. Y a-t-il des malades ici aujourd'hui qui des malades ici aujourd'hui qui diraient, mon Dieu, fais-moi franchir cette barrière, donne-moi la foi pour tout surmonter. Voulez-vous lever les mains et dire, Dieu, aie pitié de moi? Que Dieu vous bénisse. Sur tout le bâtiment, les mains sont levées. Dans tout le bâtiment. Maintenant, Père, accorde que quelque chose se produise ce soir qui fasse que les gens sachent que ceci est la vérité, la parole de Dieu, et que tu tiens la promesse comme tu l'as fait pour Abraham, Moïse et les autres. Et comme tu l'as dit à Pierre, viens à moi. Et il descendit de la barque. Il a d'abord regardé vers toi et non vers l'eau. Mais quand il a regardé les vagues, il a fixé les yeux sur les vagues, alors il s'est mis à couler. Oh Dieu, je prie pour que ceux qui descendent ce soir avec foi pour venir à toi, regardent vers toi et seulement à toi. Seigneur, donne à ton serviteur la puissance et la sagesse pour accomplir ce que tu veux faire. Ce soir, donne des bénédictions spirituelles et aussi corporelles. Nous demandons tout cela au nom de Jésus. Amen. Vous, comme vous avez levé les mains, je vous demande de faire quelque chose. Quand le service divin sera terminé, nous allons prier pour les malades ici devant. Mais juste après, quand le service divin est terminé, je vous demande, à vous qui avez levé les mains, je pense qu'ils étaient 20 ou 30, alors venez vous agenouiller devant. Si vous l'avez vraiment pensé et si vous voyez que Dieu le fera, quand vous lui parlerez et direz, Seigneur, enlève, ôte tout ce qui est incrédulité en moi, il le fera. Vous voyez, vous ne pouvez pas être libre par... Vous ne pouvez pas être libéré par vous-même, délivré par vous-même. Mais si vous avez des pensées intellectuelles, vous n'y arriverez pas. Mais si vous dites, c'est Jésus qui a fait la promesse. Et si une église enseigne que ces choses ne sont pas vraies, que ce sont des prophéties qui ne sont pas vraies, je ne suis pas leur juge. Vous le verrez en ce jour-là, avant le jugement. Faites ce que Jésus nous a dit. Maintenant, il y a environ 200 personnes pour lesquelles je dois prier. Je veux vous demander quelque chose. Sur la base du message que nous avons entendu, en levant les yeux vers l'invisible, si l'invisible se révèle de manière visible, cela devrait avoir pour effet que votre âme franchisse ce mur du son lorsque l'invisible se manifestera de manière visible. Il l'a promis. Bon, rappelez-vous que nous sommes les païens sur terre. Nous sommes des nations à l'époque où il est venu pour la première fois. Seuls les Juifs et les Samaritains l'attendaient. Nous étions des païens. Nous ne l'attendions pas à l'époque. Mais les Juifs et les Samaritains l'attendaient, oui. Il est venu et a prouvé que c'était lui qu'ils attendaient en leur disant ce qui était avec eux et en leur révélant ce qui est dans leur vie, ce qu'ils étaient, etc. Eh bien, il doit faire de même avec les païens. Eh bien, à l'époque, il disait, pourquoi le condamnez-vous? C'est un homme, il marche comme celui qui se fait Dieu. Mais il était à la fois Dieu et homme. L'intérieur était Dieu, l'extérieur était homme. Et Jésus dit, moi je ne fais que ce que le Père me montre. Voyez, ce que le Père montrait, c'est ce qu'il faisait. Lorsqu'il s'est révélé aux Juifs, comment cela s'est-il passé? Il dit à Nathanaël qui il était et ce qui s'était passé avant qu'il ne vienne à lui. Eh bien, Nathanaël dit, tu es Christ, le roi d'Israël. Mais les Juifs incrédules disaient, le monde ecclésiastique, voyez, il a le diable, il est Belzébuth. Jésus a dit, si vous dites cela contre moi, cela vous sera pardonné. Ils étaient Juifs. Mais dans les derniers jours, quand le Saint-Esprit fera la même chose parmi les païens, en revanche, une parole ne sera jamais pardonnée, ni ici, ni là-bas. Quand le Saint-Esprit viendra, il fera la même chose, car le Saint-Esprit rendra témoignage de lui. Maintenant, nous sommes dans une situation très grave. Croyez-vous que Dieu est toujours le Dieu vivant? Croyez-vous que nous vivons dans les derniers jours de la dispensation des païens, de la dispensation du temps des païens, et qu'il reviendra bientôt? Croyez-vous qu'il prépare son Église pour sa venue? Les ombres de sa venue se répandent déjà sur la terre. On voit partout l'ombre de sa venue sur son Église, et les choses que nous faisons en son nom sont comme l'ombre de la réalité de sa venue. Et c'est l'enfant guéri de la leucémie et toutes les autres choses et les autres guérisons. C'est l'ombre de son retour. Oh, les morts ressusciteront et nous le rencontrerons tous dans les airs. Mais pour que vous sachiez que sa venue est proche, venez maintenant, croyez en lui. Et s'il fait ce soir la même chose qu'à la femme de Samarie, ou aux Juifs, serez-vous des païens qui croiront en lui? Le ferez-vous tous? Levez-vous, levez vos mains, je vous remercie. Maintenant, nous méprenons pas quand nous disons guérison ou rédemption. Aucun homme ne peut sauver, aucun homme ne peut guérir. Que cela soit clair, nous pouvons tout au plus baptiser dans l'eau. Dieu seul peut sauver et guérir. Or, Dieu a préparé le salut et la guérison. Nous prêchons sa parole et il la confirme. Jean a dit, je baptise d'eau pour la repentance. Celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu. Jésus le prouve par des miracles et des signes. Il prêche sa parole par ses serviteurs. Il la confirme sous vos yeux. Maintenant, soyons aussi recueillis que nous le pouvons. Je ne dis pas qu'il le fera. Mais appelons une série de prières et donnons-lui l'occasion de se manifester pour que nous puissions voir s'il est ici ou pas. Vous tous qui croyez cela, si Jésus fait aujourd'hui la même chose que lorsqu'il marchait sur la terre, c'était un signe à l'époque. Maintenant, allez-vous croire? J'ai entendu parler d'un des plus grands prédicateurs du monde, Billy Graham, que le Seigneur utilise, un grand homme. J'ai lu dans le journal que quelqu'un lui avait écrit pour savoir s'il pour savoir ce qu'il en était de la Trinité. La question était la suivante: y a-t-il vraiment trois dieux ou un seul? Et Billy Graham a répondu à cette personne en écrivant: ce n'est pas encore révélé. Oh frère, ne croyez jamais qu'il y a trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il y a trois manifestations, trois révélations: la paternité, la filiation et l'âge du Saint-Esprit. Dieu descendant du ciel. Il était alors sur la montagne, dans le feu, dans la colonne de feu. Puis il est descendu, s'est incarné en tant que Fils. Il habite maintenant en nous par le Saint-Esprit. Le même Dieu, pas trois dieux. Le même Dieu, la même personne. Maintenant, quand il était sur terre, écoutez attentivement, s'il vous plaît. Quand il était sur terre, il a dit, un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Je suis venu de Dieu et je retourne à Dieu. Comme ils l'ont lu. Maintenant, regardez, il voulait retourner là où il était avant. Après avoir dit, le monde ne me verra plus, vous me verrez. Et les œuvres que j'ai faites, vous les verrez aussi. Voyez, c'est le même. Il ne fait que se déployer. Maintenant, comme une branche sur un arbre. Maintenant, reconnaissez cette partie. Lorsqu'il était sur terre, Il dit, je viens de Dieu. C'était la colonne de feu. Ouais, je viens de Dieu. Et qu'il retournera à Dieu. Et nous lisons que Paul était sur le chemin de Damas et que quelque chose l'a jeté à terre. Nous lisons dans les Actes des apôtres, il a levé les yeux et a vu la colonne de feu qui était dans le désert avec Israël. Une lumière qui a rendu ses yeux aveugles. Et voici que Jésus est revenu à l'état où il était auparavant. Et Saul a dit, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et la réponse est venue, « Je suis Jésus. » Il était de nouveau dans la colonne de feu. Regardez, vous savez, le même esprit est avec nous maintenant. Nous avons son image, sa photo. C'est confirmé par le monde scientifique. Et une preuve qu'il est toujours vivant dans son église. Le même signe. Un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous qui pouvez franchir ce mur du son, vous me verrez. J'espère que vous croirez ce soir. Prions pour cela. Oh Dieu, le reste de cette assemblée t'est confié. Tu dois le faire, car nous ne pouvons pas le faire. Je te prie de nous accorder ces bénédictions au nom de Jésus. Amen. Très bien, maintenant. Je voudrais savoir si vous tous, dans cette série de prières, je voudrais vous demander, êtes-vous pleinement convaincu que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité d'entre les morts et qu'il est vivant? Croyez-vous qu'il peut faire aujourd'hui ce qu'il a fait lorsqu'il marchait sur la terre? Croyez-vous qu'il a envoyé son esprit dans son église pour continuer à faire ses œuvres? Combien sont des étrangers dans le rang? Des gens que je connais pas très bien. Chaque main est levée que je ne les connais pas. Je suis étranger à ces personnes. Je ne les ai jamais vues. Combien de personnes dans le bâtiment sont étrangères? Regardez, plus de la moitié de l'assemblée me sont étrangers. Jésus est le même aujourd'hui. Ne fera-t-il pas la même chose s'il est le même? Bien sûr que oui. Eh bien, nous sommes remis à lui. Il va le faire. Voyez, c'est la première personne. Eh bien, comme la femme à l'époque, autrefois, ici se tient une femme, là un homme. Ici, c'est l'homme. Nous ne nous connaissons pas tous les deux. Nous nous rencontrons pour la première fois. Comment puis-je connaître cet homme? Pour autant que je sache, je ne l'ai jamais vu de ma vie. C'est un parfait étranger pour moi. J'ai dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Eh bien, si ce n'est pas vrai, je suis un hypocrite et la Bible est un mensonge. Maintenant, voyez, je vous demande de regarder quelque chose de manière intellectuelle. Non, mais je vous dis de regarder à l'invisible. Il l'a promis. Vous voyez? Maintenant, faites de même. Et vous autres aussi, faites la même chose. Il ne peut pas échouer. Moi, je peux échouer. Vous pouvez échouer. Dieu ne peut pas manquer, ne peut pas échouer. Maintenant, voici deux hommes se rencontrent pour la première fois de leur vie. Eh bien, c'est une vue semblable à celle de l'Écriture. Il y avait un homme, il a amené un autre homme à Jésus. Il s'appelait Nathanaël. Jésus ne l'avait jamais vu. Mais quand il vint à Jésus, il lui dit, « Tu es un Israélien en qui il n'y a pas de mensonge. » Eh bien, si on te dit quelque chose, comme Nathanaël à l'époque, il a dit, « Rabbi, comment me connais-tu ? » Eh bien, pas selon les vêtements. Non, les gens s'habillent de la même façon. Ils auraient pu être un grec ou n'importe qui d'autre. Mais Jésus lui dit qu'il est sincère pour un et qu'il est israélite. Et il dit, avant que Philippe ne t'appelle, je t'ai vu quand tu étais sous l'arbre. Ça, c'était Jésus hier. S'il est le même aujourd'hui, et qu'il habite en nous, il a promis de faire la même chose, en sorte que cet homme sache. Peut-être qu'il est ici à cause de difficultés financières, ou bien il est peut-être un homme de péché ou bien de justice, je ne sais pas. Je ne peux pas le dire. Mais Dieu le sait alors. Alors quand il se révélera qu'il est vivant pour dire à cet homme ce qui en est de lui, qu'il doit, alors que cet homme soit le juge, que ce soit vrai ou non, croiriez-vous tous alors qu'il se manifeste ici de manière visible de cette façon? Il ne peut pas apparaître dans un corps visible, non. Mais il a bien permis que cette photo, dans la, telle qu'il s'est manifestée dans la colonne de feu, soit prise seulement pour que l'homme, le monde n'ait pas d'excuses. Voyez, la même colonne de feu qui habitait en Jésus, et ce même Jésus habite en nous et fait ses œuvres. Comprenez-vous que tout va bien maintenant? Très bien. Maintenant, Seigneur, fais apparaître, fais manifester que tu es Dieu et que nous sommes tes serviteurs et que tu nous aimes et tu veux que ces gens te croient et qu'ils brisent toutes les barrières du péché et du monde afin qu'ils aient la foi, soient sauvés et guéris pour ta gloire. Amen. Je vois cet homme. Je vois ici cet homme en vision. Je vois ici un petit enfant. C'est de cet enfant qu'il s'agit pour lequel je dois prier. Ce n'est donc pas toi qui veux la prière, mais la prière pour quelqu'un, une petite fille. Tu n'es pas de ce pays. Tu es près d'un grand lac. C'est une ville qui est proche d'une autre grande ville. Tu es de Buffalo, de l'État de New York. Tu as de l'hypertension, mais tu pries pour l'enfant. Me crois-tu être son serviteur? Tu es Monsieur Bowen. C'est ton nom. Rentre chez toi, reçois ce que tu as demandé. Mets ce mouchoir sur l'enfant et il sera en bonne santé. Il sera guéri. Croyez-vous tous que Jésus-Christ est vivant? Qu'est-ce que c'est? L'invisible devient visible. Qu'est-ce que c'est? Le même Jésus, le même fruit, les mêmes signes, la même chose dans tout ce qu'il a fait. Il y a une femme ici. Je lui parlerai comme il l'a fait à la femme au puits, afin que les hommes voient. Lève ta main si je ne te connais pas. Merci. Nous sommes étrangers l'un à l'autre. Maintenant, quoi qu'ait eu l'homme, je n'ai rien à voir avec la guérison. C'est Dieu qui l'a fait par sa foi, pas par moi. Non, c'est juste un don. Car maintenant, dans ce bâtiment, il y a le même ange que Géasi a vu quand Dieu a ouvert ses yeux. Dans ce bâtiment, il y a le Seigneur Jésus lui-même. Ne regardez pas ce que vous voyez, regardez ce que vous ne voyez pas. Car c'est le temps où Dieu accomplit ce qu'il a dit. Et il le fait aussi. Laissez-moi parler à la femme. Maintenant, un moment. Une guérison s'est produite dans le bâtiment, maintenant. Et voilà la personne. Je ne la connais pas. Mais c'est la femme qui est assise là, dans l'assemblée. La femme lourde. Elle a les mains levées, les yeux fermés en prière. Elle a un problème de glande et de dos. Et elle prie encore maintenant dans son cœur. Là, au bout de la rangée. Femme, c'est vrai, ta main, encore une fois, je ne te connais pas. Oui, est-ce que c'est vrai? Nous sommes des étrangers. Rentre à la maison. Tu as touché le bord de son vêtement. Eh bien, toi, ici, tu es la femme de l'homme qui vient de passer. Je vous vois dans la même maison. Et tu souffres de nervosité. Je vois que tu es aussi allé voir un médecin. Tu as eu un examen et l'examen a porté sur sur la partie la plus basse du corps, et il dit qu'il y a des tumeurs, l'une dans l'estomac et l'autre dans les parties de femmes. Et tu as cru que si tu venais prier ici, tu serais guéri. Si c'est vrai, lève ta main pour que les gens le voient. Maintenant, celui qui sait tout de toi, il ne le fera-t-il pas? Viens donc ici, il le fera. Seigneur Jésus, accorde-nous, ô Dieu, de vivre l'expérience de la foi et de la joie ce soir, qu'elle soit complètement guérie, que la joie et le salut soient accordés à ceux avec qui elle entre en contact. Enlève le mal de son corps, au nom de Jésus. Amen. Tu te sens déjà différente. Très bien, va, réjouis-toi. Crie de joie, car cela t'a quitté pour toujours. Maintenant, comment te sens-tu? Soyez dans le recueillement. Tu ne fais pas non plus de prière pour toi-même, alors que tu en aurais besoin. Tu pries pour ton fils. Ton fils n'est pas ici. Il est dans une grande ville. C'est à l'est. J'y étais lors de ma dernière campagne. C'est Philadelphie. Il est un prédicateur. Et ils veulent l'opérer. Ils l'ont examiné. Il a une fracture. Ainsi parle le Seigneur. Crois-tu que Dieu t'accordera ce que tu lui demandes? Oh Dieu éternel, confirme la foi de cette femme par des miracles et des signes. Accorde la délivrance comme elle a demandé. Au nom de Jésus-Christ, je te le demande. Amen. Crois-tu que cela va arriver? Je te remercie. Crois-tu que Dieu me révélera pourquoi tu es ici? Tu as beaucoup de choses. Tu es très nerveux. Des complications. Tu as un problème de femme. Presque au bord de l'effondrement. Une situation terrible. Tu n'es pas de cette ville. Tu viens de l'Indiana. Mademoiselle Alexandre, tu peux rentrer chez toi. Il t'a guéri. Amen. Croyez-vous que Dieu puisse me dire pourquoi vous êtes ici? Quand il le fera, tu le croiras de tout ton cœur? Tu n'es pas ici pour toi. Tu es ici pour l'amour de cet enfant. Si Dieu me dit ce qui ne va pas avec cet enfant, c'est une tumeur du sang. C'est vrai. Crois-tu que si je demandais à Dieu de retirer celle-ci de l'enfant, eh bien, l'enfant est trop petit pour avoir la foi. Oh Seigneur, Dieu, ils t'ont apporté des enfants à l'époque, que tu les bénisses. Le même Jésus est ici présent. Je condamne le diable qui a voulu mettre fin prématurément à la vie de cet enfant. Satan, abandonne cet enfant, quitte-le, sors de lui, au nom de Jésus. Maintenant, ne doute pas, car c'est accompli. Et la foi, toi, homme, qui étais assis là, la tête courte, penchée, tu as une maladie de la vésicule biliaire. Je ne te connais pas, mais lui, il te connaît. Tu as une maladie de la vésicule biliaire et tu as sur ta poitrine une marque spéciale. Crois-tu que je suis son prophète? Alors, rentre chez toi et tu n'en souffriras plus jamais. Sois guéri au nom de Jésus, du Seigneur Jésus. Oh, c'est de plus en plus fort, de plus en plus fort. Maintenant, je vois une femme d'origine africaine. Elle se tient à côté de cette femme. Je vois qu'elle est assise là. Elle a de l'arthrite et d'autres complications. Elle est assise là, à côté de cette femme qui s'appelle Belle. Je ne la connais pas. Ma sœur, si tu crois Dieu comme tu l'as promis, c'est fini. Maintenant, sachez que c'est l'Esprit de Dieu qui vient de parler. Dans la rangée suivante, derrière la femme, il y a un homme qui a quelque chose sur la nuque. Si tu crois, Seigneur, si tu crois, monsieur, Dieu te guérira. Si tu crois, lève ta main. Je suis un étranger pour toi, mais pas lui. Où que vous soyez, n'ayez foi qu'en Dieu. Pouvez-vous briser cette barrière d'incrédulité? Pouvons-nous permettre au Saint-Esprit d'entrer pour qu'il prenne tout sous son contrôle? Alors cela peut arriver. Le diabète te quittera si tu y crois. Va à ton chemin en te réjouissant. Qu'est-ce que tu en penses? Il est l'étoile du matin. Croyez-vous en lui? Croyons maintenant de tout notre cœur. Oh, si tu crois, tu pourras manger ton souper, ta maladie de la d'intestin et d'estomac est guérie. Si tu crois, tu n'as pas besoin de mourir de ton cancer. Ton cancer t'a quitté. Rentre chez toi. Tu es guéri. Combien croient de tout leur cœur? Levez-vous donc maintenant. Levez-vous. Levez vos mains à Dieu. Et d'un commun accord, nous voulons maintenant franchir ce mur du son. Dieu est ici. Chaque maladie, chaque souffrance doit s'effacer, se retirer. Priez tout à votre manière. Oh Dieu, créateur du ciel et de la terre, je t'amène cette assemblée. Je condamne le diable. Il doit quitter la pièce au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, tout esprit impur, tout doute d'incrédulité, tout esprit d'incrédulité doit quitter cette pièce. Satan, sort. Je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Imposez-vous les mains les uns les autres. Priez maintenant dans tout le bâtiment et Dieu vous rendra la santé à tous. Imposez-vous les mains et glorifiez Dieu. C'est tout. C'est tout. Tous ceux qui croient que vous êtes guéris, levez la main et rendez grâce à Dieu pour cela.